Monsieur Gérard, je ne peux pas l'appeler autrement, ne sort presque jamais de chez lui. Ma mère a l'habitude de le croiser près du cimetière quand elle va à la messe de 4 heures du matin. Si jamais elle le rencontre près du stade ou pire devant l'hôpital général, elle sait qu'elle sera en retard et qu'elle devra rester debout au fond de l'église durant tout le reste de l'office. Mais cela arrive rarement parce que ma mère est tout aussi ponctuelle que Monsieur Gérard. Dany Laferrière est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son nouveau texte intitulé « L'enfant qui regarde » et de deux rééditions « Dans la splendeur de la nuit » et « Cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit ?» Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera « Tabou Combo ». De Da.
Ma chère grand-mère, tout à fait, je la revois sur la petite galerie à Petit Gouave, dans toute mon enfance ensoleillée et arrosée de café, avec cette odeur qui reste dans ma tête comme ma petite Madeleine à moi, et qui offrait une tasse de café aux gens qui passent. Eux, ils racontent leur vie comme ça. Et c'est ainsi que j'apprenais à écouter, j'apprenais le dialogue, j'apprenais l'encre disons la cafetière, qui était pour moi comme une sorte de lampe d'Aladin, et le café qui deviendra plus tard de l'encre.
Que vous a-t-elle appris ?
Mais tout cela, c'est-à-dire, il faut mettre les choses en place et ensuite s'asseoir et attendre patiemment que le mouvement de la vie fait bouger les choses. Par exemple, quand on n'avait rien, elle m'envoyait mettre de l'eau sur le feu pour attendre que quelqu'un passe dans la rue et lui offre un poisson. Ou bien encore, et elle en échange offre une tasse de café, un peu d'huile, un peu de sel par-ci par-là, et je courais de la petite galerie à la cuisine pour faire le travail de cuisinier. Et puis finalement, on mange toujours, on finit toujours par manger. C'est ça qu'elle m'a appris, on finit toujours par manger si on se met en mouvement.
Vous a-t-elle appris la maîtrise du temps ?
De ne pas chercher à la maîtriser et surtout d'avoir en tête une sorte de profondeur de champ et par rapport au temps. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas dans les livres. Et ça s'apprend dans une sorte de tenue dans la vie. Bien se tenir. Enfin, pour elle, c'était s'asseoir avec une tasse de café au pied de la chaise. Et de croire que les choses vont venir à vous aussi comme vous pouvez aller aux choses. Donc il y a deux mouvements. Et quand on est, comme ma mère à Port-au-Prince, dans l'autre mouvement, c'est-à-dire elle cherchait du travail, et puis elle est dans la jeunesse, elle va aux choses, et ma grand-mère m'apprenait que les choses peuvent venir aussi, mais il faut attendre.
Qu'attendait-elle de la vie, Da ?
Pas beaucoup de choses. Et elle attendait pas beaucoup pour elle-même. Elle donnait surtout. Elle était disponible. C'est ça. Oui. Elle m'a appris cette disponibilité face aux événements, bons ou mauvais, et cette espérance du mouvement de la vie. C'est-à-dire que les autres existent. Et quand on sait que les autres existent, ils interviennent constamment dans un sens ou un autre. Et de ce mouvement de la vie, on arrive à passer entre les mailles du filet.
L'horizon de l'attente n'existe pas beaucoup dans votre œuvre littéraire, Dany Laferrière, mais la possibilité d'apprécier l'intensité du présent, oui. C'est peut-être Da qui vous a indiqué le chemin.
C'est un mélange. Ça, c'est Da et ma mère. Ma mère qui est plus dynamique, et qui va très vite d'ailleurs. Ma grand-mère Da souriait toujours en disant que Marie, c'est le nom de ma mère, elle est déjà partie il y a quelques minutes, vous n'avez aucune chance de la rattraper. Et quand elle descendait en ville. Et alors que Da, je n'ai jamais vu bouger de là où elle était assise. Donc, je pense que cette façon de ce mélange d'immobilité et de mouvement incessant et de vitesse crée une intensité qui est au cœur même de mon travail d'écrivain, où il y a toujours deux personnages, un personnage assis et un personnage qui bouge, comme dans Comment faire l'amour. J'ai toujours où le personnage narrateur dans mes livres soit se trouve dans une baignoire en train de lire, et soit se trouve assis dans un café, et puis aussi avec un mouvement incessant qui est souvent dans la bibliothèque, parce que c'est souvent quelqu'un qui aime lire et qui cite les écrivains qu'il lit. Il y a toujours un grouillement qui se passe dans la tête avec les écrivains qu'on a lus et la mémoire de l'enfance, la mémoire de l'adolescence, et un mouvement, un temps présent intense, un indicatif présent intense qui est là, une recherche pour ne pas tomber dans le café de la nostalgie.
C'est pour fuir la dictature que vous vous êtes réfugié au Canada ?
C'est aussi pour fuir la dictature, bien sûr. Je crois que tout être humain et normal vivant en Haïti à cette époque-là, et un peu plus tard aussi, et un peu plus avant aussi, c'est-à-dire c'est une longue histoire, c'est un pays où il y a eu 32 coups d'État. Et donc ça veut dire qu'il y a une tentative d'écraser les gens 32 fois, mais si il y a eu 32 coups d'État, c'est que les dictateurs n'ont pas pu rester au pouvoir. Sinon, il y en aurait moins, il y aurait plus de dictature. Donc, ça veut dire que la résistance était aussi forte, aussi intense. C'est un pays à grande intensité, à forte intensité, très chargé politiquement, émotionnellement, mystiquement et intellectuellement aussi.
Vous étiez dans votre propre pays au moment où il y a eu le séisme. Vous l'avez vécu, c'était lors d'un colloque d'étonnants voyageurs et vous avez écrit un texte magnifique à ce moment-là. Le pays s'en est remis. Aujourd'hui, on a l'impression que... Je ne vais pas vous poser des questions sur ce qui se passe politiquement à Haïti, parce que je sais, Daniela Ferrière, que ça vous insupporte au plus haut point.
Mais non, c'est parce que je n'ai pas les réponses.
Non, mais par contre, vous répondez toujours par la littérature, par le fait que ce pays continue à avoir des romancières, des romanciers, des peintres, des musiciens, et il résiste artistiquement, intellectuellement et spirituellement. Mais par contre, ma question est, il n'y a plus de dictature, il n'y a plus de tonton Macoute, et il n'y a plus de famille Duvalier, mais il y a un système complètement corrompu. Est-ce qu'il est équivalent à celui que vous avez connu jeune avec la dictature?
C'est très difficile, c'est très nouveau. Mais le problème, c'est que le fait de l'absence d'individus qu'on peut interpeller sous le nom de dictateur ne veut pas dire qu'il n'y a plus de dictature. Il y a la dictature de la faim, les gens ont faim. Il y a la dictature de l'angoisse, les gens de plus en plus désespèrent de l'avenir. Et ce qui est terrifiant, il y a aussi un renouvellement de la société qui se fait à une vitesse folle, puisque 70% de la population ont moins de 25 ans, ce qui veut dire qu'on vit dans un pays presque sans expérience. C'est-à-dire tous les gens qui vivent en ce moment, qui sont en mouvement en Haïti, la plupart n'ont pas connu les Duvalier. Donc, ils peuvent l'imaginer d'une manière ou d'une autre. Presque un pays sans mémoire. Et naturellement, comme tout cela entraîne une déliquescence, il y a des problèmes de scolarité. Et parce que on peut ne pas être né sous un régime, mais on peut apprendre par les journaux, par les livres, par l'histoire. Mais si vous n'avez pas une scolarité, vous ne pouvez pas avoir cette expérience par les livres. Bon, il y a la mémoire orale, la mémoire populaire, mais elle est très contestée par les jeunes, c'est-à-dire les récits des vieux ne comptent pas puisqu'ils répondent « vous avez failli, est-ce pourquoi nous sommes dans cette situation ?» Donc c'est un pays bouleversant, mais qui répond toujours par la culture. D'ailleurs, pour le tremblement de terre, le lendemain du tremblement de terre, j'ai eu à dire cette phrase spontanément, sans y penser, quand une journaliste de la presse de Montréal m'a demandé « qu'est-ce que je pense de la situation ?» 300 000 personnes par terre. Et j'avais dit que quand tout tombe, il reste la culture. Et c'est une phrase qui m'avait fait mal au départ. Je dis pourquoi j'ai dit ça, alors qu'il y a des morts, pourquoi la culture? Et quand tout le monde est par terre, mais je l'ai dite spontanément. Et c'est ce qu'ont tous les poètes rêvent d'un poème anonyme. J'ai l'impression que c'était pas moi qui l'avais dit. C'était vraiment une voix populaire. Et qui était une forme d'espérance. Eh bien, les gens se sont accrochés à cette phrase jusqu'à présent pour répondre par la voix de la culture.
Je vous propose d'écouter la voix de René Depestre sur la grande présence des contes en Haïti. C'est une archivina de 1990. C'était dans Le Bon Plaisir sur France Culture.
On raconte beaucoup de contes en Haïti. Il y a beaucoup, beaucoup de... C'est un pays à histoire. À tous les points de vue, dans le double sens du mot, il y a des cycles de contes. Il y a le cycle de Bouki et Mali, c'est un peu comme le roman du renard. Il y a des cycles fantastiques. Et puis, il y a des histoires qui se déroulent surtout à la campagne. Il y a des histoires de la magie, il y a des contes magiques. Il y a un répertoire de contes extraordinaires, un répertoire oral, que j'ai écouté pendant toute mon enfance, soit dans ma famille, soit... de la bouche de paysans que je fréquentais quand nous vivions à la campagne.
Quand on vous lit, Daniela Ferrière, et on sait qu'il y a beaucoup de poètes, beaucoup d'écrivains haïtiens qui continuent à nous donner leur rapport au monde et que c'est une littérature universelle et qui ressource l'ensemble de la littérature. Et je pense notamment aussi à Franck Etienne, à des personnalités de cette envergure et de cet acabit. Mais quand on lit votre dernier livre et certains de vos autres livres, mais plus particulièrement celui-ci, L'enfant qui regarde, on se dit que la présence, justement, non pas du conte, mais d'une littérature qui introduit des personnages, qui sont plus des personnages que des personnes, et qui nous emmène dans un monde quasi mythologique, même s'il est hyper réaliste.
Oui, ça, c'est mon travail d'écrivain. Vous savez, les gens racontent beaucoup le soir en Haïti. C'est les contes de nuit. Les contes sont de nuit. Mais heureusement pour moi, et ma grand-mère me racontait des contes de jour. Et les contes de jour, c'était pas les histoires mythologiques. C'était souvent, et tu vois cet homme qui vient de passer là, derrière là, l'âne qu'il conduit au pâturage. Il n'a pas toujours été comme ça. Et c'est ainsi que ça commençait souvent. Et donc, j'avais le ton du conte, mais j'avais quelque chose qui était appliqué à la vie quotidienne. Je crois, tout à l'heure, vous m'avez demandé et qu'est-ce qu'elle m'a donné. Et je crois que c'est cela. Et cette façon, dans le récit, de faire pénétrer la mémoire populaire avec quelque chose qui se passe dans l'instant. Et c'est la même saveur du conte populaire, mais sur un événement qui est presque de l'ordre du journal. Et tu vois, donc j'avais l'information de ce qui se passait dans la ville, et en même temps, j'avais la réflexion profonde et de la grande conteuse.
Alors tu vois, c'est ce que vous venez de dire, Daniela Ferrière, le livre s'intitule « L'enfant qui regarde », donc c'était un peu vous, l'enfant qui regardait. Mais il y a aussi autre chose. Je ne sais pas si ça emprunte au conte de Haïti ou à votre propre personnalité d'écrivain et de vision et d'observation du monde, parce que vous êtes aussi journaliste et vous êtes un journaliste de l'instant présent. Et tous vos articles, qui ont dû, j'imagine, nourrir votre écriture aussi, sont des choses que nous pouvons décrire par le menu détail. Car c'est à partir de ce que vous voyez, et après tout, tout le monde ne sait pas regarder, que vous organisez par des mots l'univers que vous nous transmettez. Mais à l'intérieur de l'enfant qui regarde, et dans plusieurs de vos autres textes, il y a un personnage qui s'appelle Monsieur Gérard, et souvent, dans votre écriture, mais dans ce dernier livre plus particulièrement, Monsieur Gérard, c'est un artiste de la vie. Comment on fait de sa vie une œuvre d'art ?
C'est le rêve aussi, mais en même temps, c'est une interrogation. Est-ce vraiment une vie quand on en fait une œuvre d'art? Et c'est cela. Et sa vie porte la mort en elle aussi. Et une œuvre d'art, ça vous asphyxie. Vous ne pouvez pas vivre au quotidien parce que il y a un goût d'harmonie très fort et dans l'œuvre d'art et une tendance à la perfection. Mais il y a des gens comme ça. Et j'en ai rencontré un qui était un professeur de littérature, qui s'appelait Monsieur Gérard, qui s'appelait Gérard Campfort d'ailleurs, et qui avait autour de lui une nuée de disciples. Et il y a des gens comme ça qui dès qu'on les voit, on doit construire des mythologies. Les gens ne peuvent pas s'empêcher de voir une vie plus mystérieuse qu'elle l'est peut-être en réalité, qu'elle ne l'est peut-être en réalité. Et Monsieur Girard, c'était cela. Il était toujours au bord de la fable et il en était conscient. C'est un homme, quand vous allez chez lui, qu'il vous invite à rentrer, dès que vous rentrez, il vous donne l'impression que c'était lui l'invité. Et vous qui le recevez. Et comme s'il était le locataire de l'endroit où il se trouvait, comme s'il n'était jamais chez lui en propriétaire dans la vie. D'ailleurs, le Gérard même de mon professeur, il faisait une émission à la radio en Haïti pendant des années. Nous, ses élèves, étudiants, nous ne savions pas que c'était lui. Il ne disait jamais son nom. L'émission s'appelait, je crois, Chanson d'autrefois, Souvenir d'aujourd'hui. Et il disait jamais son nom. Et on peinait. Est-ce vraiment lui? Est-ce sa diction? Il a une diction presque métallique. Et est-ce lui? Et donc, c'est son genre. Et c'est un personnage magnifique pour un jeune homme qui rêve comme moi.
C'est pas mal d'être le locataire de son existence et non pas le propriétaire. Comment on fait, Daniela Ferrière?
L'élégance. Et c'était cela, il était élégant. Et ce sont ces gens qui m'ont appris à écrire, pas par l'écriture uniquement, mais par leur manière d'être. Ils m'ont proposé des personnages et une élégance et une tenue. Et j'ai toujours cru que, comme je l'ai dit, je parle français parce que je me trouve beau quand je parle français. Il y a quelque chose comme
ça. Et pas beau quand vous parlez pas le français ?
Non, je me trouve beau pour n'importe quelle manière, j'espère. Mais il y a, c'est une langue apprise par l'écrit. C'est-à-dire, l'Institut français, mettons, en Haïti, ou les
qui
librairies.
Qui fait un travail admirable encore en ce moment.
Absolument, qui a toujours. C'est une grande historique.
Très difficile.
Et de l'Institut français, au Breton, il était venu, quand Pierre Mabille était là, avec Wilfredo Lam, Sartre. Et mais c'est surtout, les livres classiques coûtent moins cher que n'importe quel autre livre. Donc, où étaient donnés. Donc, si vous voulez lire Voltaire, on vous donne facilement Zadig, on vous donne facilement Candide, et alors qu'on vous donnera plus difficilement un livre qui vient de paraître. Les nouveaux livres sont toujours très chers, et les classiques sont à la portée de tout le monde. Donc, dans les pays pauvres, on ne lit que les classiques. Ne lisant que les classiques, j'étais formé avec par la beauté, intérieurement travaillé par le style de Gide. Et donc, quand je parle, j'entends cette langue écrite, puisque je la connaissais moins à l'oral.
Je vous propose d'écouter la voix d'un de vos maîtres. Je ne sais pas si vous l'avez découvert en Haïti ou c'était plus tard, parce que je ne sais pas s'il est considéré comme un classique ou comme un moderne, un contemporain. Il s'appelle Borges. Nous allons l'écouter. Il va s'interroger sur la différence réelle entre la prose et la poésie. C'est une archive INA sans date.
Je me considère comme un poète. Monsieur de mes amis qui sont des poètes pensent que je suis un prosateur. Je suis un intrus dans la poésie. C'est de mes amis qui sont des prosateurs, mais qu'on considère plutôt comme un poète. Mais je ne sais pas s'il y a une différence essentielle entre la prose et le vers. Il y a une différence de forme, tout simplement. Mais l'émotion qui cause une page en prose n'est pas différente de celle qui cause un poème. Mais je sens que ma poésie est plus immédiate et plus proche de moi que la prose. Ma prose, c'est toujours quelque chose de fabriqué, quelque chose que je fais. Tandis que j'ai l'impression, peut-être fausse, je sens que la poésie émane de moi, ça, une source en moi, qu'elle coule d'une façon plus directe et plus pure. Tandis que dans la prose, il y a toujours l'intervention de l'intelligence. Je sens que la prose est un peu fabriquée. Et la poésie, non, je crois que je suis plus près de mes pièces en vers que de mes pièces en prose.
Que vous a apporté Jorge Luis Borges? Il y a du Borges partout hein, dans vos livres.
C'est vrai qu'il est partout.
Par petites touches.
Quand vous dites classique, il dit des choses de grande modestie. Il dit, ce sont mes traducteurs qui m'ont inventé, je ne suis pas un si grand écrivain. Et des choses de grande vanité. Il dit, l'éternité me guette. Et j'aime beaucoup qu'il soit un peu comme ça, aux deux extrêmes de sa vie, et à chaque fois, on ne sait pas où le trouver. Et qu'il soit un Argentin de Buenos Aires, comme ça, un peu dans un sous-continent, un peu ignoré pendant longtemps par l'Europe, et brusquement, et qu'il se met à l'égal d'un Virgile. Et j'aime ça, ce personnage. Et j'aime surtout qu'il ait tenté de devenir un écrivain classique et qu'il a fini par réussir à mon regard.
Vous avez beaucoup galéré avant d'être connu, Dany. Maintenant, vous êtes célèbre au point d'avoir votre effigie au musée Grévin. D'ailleurs, on a l'impression que ça vous gonfle un peu d'être aussi reconnu et célébré. Mais... vous avez énormément galéré, c'est venu assez tard, et vous avez fait plein de petits boulots au Canada, enfin au Québec, quand vous êtes arrivé. Ça a été extrêmement dur, la vie.
C'est ma vie, c'est même pas c'était, il n'y a pas de passé chez moi, c'est ma vie, au contraire, j'ai écrit avec ça, mais j'ai gagné en indépendance beaucoup. Quand vous travaillez, quand vous devez vous accomplir dans votre propre vie, sans personne, sans parrain, sans passeur et sans ascenseur, eh bien c'est magnifique.
Qu'avez-vous appris de tous les petits boulots que vous avez faits?
Ben j'ai rencontré surtout des gens. Et je dis souvent à des gens que je rencontre quand je travaillais à l'usine que les gens qui ne savent pas lire n'ont aucune idée combien ils sont précieux dans les livres. parce que les livres où il y a trop de gens qui savent lire deviennent des livres un peu académiques. Alors qu'il faut faire un bon mélange. Un bon mélange, et c'est même mieux de mettre beaucoup plus de gens, un peu plus de gens, plutôt, et qui ne savent pas lire dans un livre parce qu'ils n'ont... Et ils sont de bons personnages, ils sont toujours en mouvement, ils sont dans une vie quotidienne. Et je pense pas que ce soit très bon qu'ils soient seuls, il faut aussi de ceux qui pensent, de ceux qui viennent avec une mémoire écrite, que j'ai dit qui est magnifique aussi, j'adore ça, les citations, les écrivains. Mais j'aime bien aussi et qu'il y ait des gens qui me parlent de l'appui sans tenter de dire que ça perle sur la vitre de la voiture, et qui disent simplement « il pleut ».
Est-ce que c'est parce que vous étiez un grand lecteur que vous avez eu envie de devenir écrivain ?
Ça, l'œuf et la poule, je ne sais vraiment pas. Mais je crois que si quelqu'un devient écrivain, on peut partir du fait qu'il a été un lecteur. Mais on peut être lecteur sans devenir écrivain. Et le drame de notre...
Mais on peut être écrivain sans avoir jamais rien lu. Peut-être.
Ça me paraît, ne serait-ce que pour écrire même l'alphabet. Et il faut avoir...
Non, mais lu de la littérature, j'entends.
Oui, bien sûr qu'on peut retrouver.
On peut avoir tout un monde en soi sans apprendre des autres. Je sais pas, c'est une question que je vous pose.
Pour la littérature écrite, je crois que si on veut écrire, on va être tenté quand même de se faire raconter des histoires par ceux qui en ont écrit. C'est plus facile d'ouvrir un livre de Balzac que de rencontrer quelqu'un dans un café et qui va aussi loin. Donc il faudrait de la patience, donner des rendez-vous et revenir, alors qu'il suffit de tendre la main. Et je crois que le problème que je vois par rapport à la lecture, que je place très haut, c'est que de plus en plus les lecteurs se dévalorisent et croyant qu'ils sont des écrivains qui n'ont pas écrit. Alors que je me souviens, dans mon enfance, avec ma grand-mère, on rencontrait des gens qui étaient fiers d'être des lecteurs. Et les gens les présentaient ainsi. « Ah, c'est mon ami Henri, un grand lecteur. » Et la personne dit « Ah oui, absolument, je suis un grand lecteur. » Et après, je parle dans Haïti, et après, de plus en plus, je rencontrais des gens et à qui on disait « Vous lisez beaucoup, pourquoi vous n'écrivez-vous pas ?» Et là, on avait, 6 mois plus tard, un mauvais livre. Et c'est cela, alors qu'on avait devant nous un très grand lecteur. On vient de perdre un grand lecteur pour la petite vanité d'un mauvais livre. Donc, je crois qu'il faut redonner sa dignité à la lecture et au lecteur.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Dany Laferrière, Lohengrin.
la mer. Il y a le chuintement sur les goémons secs quand elles montent. Il y a la respiration douce. Le soir, souvent, quand elle devient lisse, il y a le grondement des vagues quand elles se forment, arrivent, déferment. Les hurlements quand elles explosent contre les rochers. C'est pour moi tout le poème du monde. Je suis né là. Et cette musique-là me hante encore aujourd'hui. Un jour, j'ai réalisé, j'ai écrit quand même pas mal de livres, et tout d'un coup, je me dis, tiens, c'est curieux. J'ai commencé ce livre-là, les premières phrases sont venues en promenant dans le bord de mer, là où je suis né. Puis je dis, ah ben tiens, oui, celui-là aussi. Je remonte, et je me suis aperçu que tous mes livres, sans exception, ont commencé là. Comme si cette musique-là, ce grondement-là, portait... Tout d'un coup, il y a des mots qui venaient dessus, qui me prennent en général par surprise, et je sais que c'est le début. Aussi, des fois, ça m'est arrivé pour un livre d'avoir la phrase de fin avant d'avoir celle du début. Alors, bon, les psychanalystes se régaleraient, probablement. Ça veut dire quelque chose pour moi. C'est cette puissance-là, dehors... Elle m'habite.
Nous venons d'entendre la voix de Michel Lebris. C'était à l'heure bleue le 1er février 2019, à l'occasion de son dernier livre, puisque Michel va disparaître très peu de temps après. Michel Lebris, c'est toute une aventure amicale, intellectuelle, artistique. C'est tout un compagnonnage aussi, je crois, poétique et politique que vous avez entrepris avec lui, qui avait fondé Les Étonnants Voyageurs. Et je me souviens de vous, Dany Laferrière, à Haïti, à plusieurs reprises, où vous étiez justement invité par Michel. Et je crois que musicalement, Michel vient de parler de la mer comme inspiration de sa propre musique d'écriture. Est-ce que vous avez une source d'inspiration à l'extérieur de vous-même, ou est-ce que tout est à l'intérieur de votre tête ?
Non, pas du tout. Tout n'est pas à l'intérieur de ma tête. Je vois les choses, d'ailleurs. Je suis l'enfant qui regarde, c'est-à-dire je vois, petit gouave, je vois. Il est vrai que la mer que Michel Lebris vient d'évoquer avec tant de ferveur, c'est une mer différente que la mer d'Haïti. La mer de la Bretagne est une mer de marins. Et les gens voient bien la possibilité de quitter la Bretagne, de prendre le bateau, de devenir marin et d'aller ailleurs. La mer d'Haïti est une mer immobile. C'est une mer qui sépare, c'est une mer qui d'abord habitée par une grande nostalgie de l'Afrique, parce que la mer sépare Saint-Domingue, Haïti, de l'Afrique. C'est la mer des gens qui ont pris le bateau négrier. C'est une mer où une nostalgie de pays et une souffrance et de la traversée. Et c'est pourquoi les Haïtiens ne sont pas des marins en général. Et même quand ils sont des marins, ils savent pas nager. Et pas des pêcheurs. Et
donc, c'est pour ça que certains d'entre eux, hélas, meurent quand ils quittent leur propre pays pour essayer de regagner d'autres rives.
Absolument, parce qu'ils sont pas nageurs, ils vont pas à la mer. Vous savez, c'était interdit durant l'esclavage de regarder la mer parce que ça peut faire un esclave nostalgique, donc impropre et au travail de ce que sa condition l'oblige, travail de cultivateur ou de... Donc c'est pas la même chose, mais c'est vrai que moi c'est toute la vie qui est pour moi, mon inspiration est à l'extérieur de moi, même si une grande partie les livres occupent le quart de ma tête, mais les trois quarts sont dans la vie quotidienne. Et j'aime m'asseoir quelque part et regarder ce qui se passe. Je suis vraiment l'enfant qui regarde et j'aime essayer d'abord laisser les événements me pénétrer avec leur surcharge de sens. Et les cinq sens sont toujours en mouvement. Et chez moi, le goût, l'odorat et le toucher, enfin tout. Et en même temps, tout cela rentre en moi et passe par cette machine incroyable et qui traduit ça en mots, en phrases, en images et en style, si possible.
Êtes-vous japonais, haïtien, québécois ou français ?
J'aimerais être tout cela. Je me souviens quand j'étais enfant avec ma grand-mère, on s'asseyait sur la petite galerie le soir pour regarder les étoiles. Et j'étais toujours très étonné qu'on soit uniquement de la planète Terre. Pour moi, la planète Terre ne me suffit pas. Et il faut aussi les autres planètes. J'aimerais être de Mars, de Jupiter, de Vénus, de... J'aimerais... Je ne comprends pas l'idée d'un espace donné. Et ne pouvant avoir le monde, je suis en train d'écrire un petit livre en ce moment, qui commence ainsi. Comme je ne peux pas avoir le monde, je dis toujours que d'autres viennent d'un pays, moi je viens de ma chambre. Et j'ai pris le plus petit espace en pensant qu'il est le plus universel et le plus approprié. Et pour un être humain, c'est un espace où je suis le seul habitant en ce moment, à Paris. C'est ma chambre... Voilà.
C'est comme la chambre de Monsieur Gérard, interdiction d'y rentrer.
C'est la chambre de Monsieur Gérard, je crois.
Je vais vous proposer d'écouter un document que nous avons trouvé pour vous, Daniela Ferrière. Et il n'y a pas que vous qui êtes entré à l'Académie française, mais par contre, il y a que vous qui êtes entré à l'Académie française, qui avez publié autant de livres et qui soit au musée Grévin. Mais je voudrais vous faire entendre une archive qui date du 26 octobre 1988 d'un monsieur que nous admirons, vous et moi et beaucoup d'auditeurs. Il s'appelle Léopold Ségard-Senghor et il explique dans Radioscopie au micro de Jacques Chancel le 26 octobre 1988 les problèmes que lui ont posé l'idée même d'entrer à l'Académie française.
Ça m'a posé d'abord un problème. Est-ce que étant nègre, défendant la négritude, est-ce que il faut accepter d'être accueilli à l'Académie française? Mais je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Parce que à côté de la civilisation négro-africaine, il y a la civilisation européenne, il y a d'autres civilisations. Vous voyez, c'est parce que je pense que en Europe, la plus grande civilisation, celle qui répond le mieux à mon idéal, c'est la civilisation française. Vous voyez? Et c'est pourquoi j'ai accepté, parce qu'on m'avait consulté, j'ai accepté d'être élu à l'Académie française. Et depuis lors, donc, je travaille à la constitution, n'est-ce pas, de la francophonie. Qui est une version, et la version la plus humaniste de la civilisation de l'univers.
Nous venons d'entendre Léopold Ségard-Senghor parler de ses questionnements autour de son entrée à l'Académie française. Vous, non, pas trop de tourments.
Ah non,
ça
pas
s'est
du
bien
tout.
Passé.
Non,
on est venu vous chercher et puis il avait tracé le chemin.
Oui, et puis aussi Jean Dormisson, Hélène Carrère-Dancausse. Non, je parlais pas de difficultés pour entrer à l'Académie française. J'imagine que n'importe quel candidat peut être accepté ou refusé. Et ça, c'est l'ordre des choses. Mais je n'avais pas d'état d'âme. Et pour une raison simple, je comprends le problème dont parle Senghor. Et Haïti est indépendant depuis 1804. Donc, on n'a pas
de leçons à recevoir.
Oui, mais c'est surtout qu'on n'a pas de drame colonial. C'est-à-dire, quand on voit un Français, on ne voit pas un ennemi puisqu'on a fait une guerre. Et on a repoussé l'armée napoléonienne. Et donc, on a un sentiment de fierté qui fait que on n'a pas de mémoire et de vengeance dans la tête. Et la langue française est là. J'ai appris cette langue, je la parle, j'écris en français. Et il y a une institution qui accueille les écrivains, j'allais dire méritants, entre guillemets. Et bien voilà, et j'y suis. Et c'est plus difficile pour un Guadeloupéen, un Martiniquais, ou même un Algérien, même si on a eu une Algérienne aussi à Siadi Eba, parce que il y a des contentieux, il y a des réticences, et la créolité est quand même, disons, face aux Français. Il y a des choses comme ça. On se dit, est-ce qu'on n'est pas un vendu si on va à l'institution la plus forte? On se dit, est-ce qu'on se bat pas contre le créole? Enfin, on se dit plein de choses. Moi, c'est une institution qui se trouve dans le monde qui est quand même le club le plus sélect de la littérature mondiale, être membre de l'Académie française, eh bien voilà, ça me va. Et je n'ai pas de problème à ce titre.
Je vous propose d'écouter la voix de James Baldwin qui va expliquer que le racisme, c'est le fait d'imposer une définition de l'autre. C'est une archive INA du 1er janvier 1975.
Le racisme est basé carrément sur la question du pouvoir. Le racisme commence à un moment donné que vous avez le pouvoir de me définir. Un tel pouvoir que moi je ne vais pas échapper pour votre définition. Mais c'est ça le racisme qui crée une espèce de réponse épouvantable aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Mais absolument fatal. Parce que pour lutter contre votre définition, pour respirer, pour te faire comprendre que je ne suis pas du tout ce que tu veux dire que je suis, il faut carrément que je vous attaque. Il faut que je vous attaque profondément dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre sexe, dans toutes les bases de votre réalité. Il faut que je vous attaque pour être né dans le monde. Et ce moment-là, c'est vous aussi qui êtes en train d'être né. Mais c'est beaucoup plus pénible pour vous parce que vous pensez que vous avez beaucoup plus à perdre que moi.
Alors je sais, Dany Laferrière, que les mots peuvent servir aussi à faire comprendre et que vous êtes dans tous les registres littéraires et vous adressez à un plus large public possible. Et vous avez écrit un texte justement pour essayer de faire comprendre que ce mot même de racisme doit être vidé de son sens et qu'il doit, par l'explication même de ce terme, pouvoir disparaître peut-être de l'horizon langagier, mental et psychique qui occupe certains.
Et on espère aussi l'impact négatif qu'il a sur la vie des gens. Et si vous avez peur du mot, vous auriez dû avoir encore plus peur de la réalité elle-même. Donc il faut que les deux situations quittent la scène, et si l'on peut dire. La question du racisme, c'est vrai, on se dit à quel moment ce mot est entré, qu'il s'est implanté, et que certaines fois le blanc dit il faudrait en finir avec le mot, le faire disparaître, le noir dit si vous le faites disparaître, il faudrait faire disparaître le racisme lui-même. Et Et quand c'est le contraire aussi, quand le noir fait faire disparaître le mot, le blanc le garde. En fait, c'est quelque chose, c'est presque difficile à le faire disparaître. Mais je crois que il faut le voir et autrement. Dans le sens que, en devenant écrivain, je me suis dit, la première chose à faire, c'est nettoyer notre vocabulaire. C'est-à-dire, essayer de repenser chacun des mots qu'on nous donne pour des réalités, pour des choses, des évidences qu'on ne peut pas éviter, essayer de reprendre la signification. Le mot exil, par exemple, je me suis dit, ce mot-là est un faux mot. C'est un mot qui vient du dictateur. Il vous met en exil. Alors, je ne l'accepte pas. Je suis en voyage. Le mot racisme aussi, souvent, c'est un mot employé beaucoup plus par les racistes que par les gens qui subissent le racisme. Alors, je le conteste. Je dis, c'est votre problème. C'est votre problème, ce n'est pas le mien. Non seulement c'est votre problème, celui qui est raciste, mais c'est le problème aussi de celui qui est de la même, entre guillemets, race, de la même couleur que vous. C'est à lui de chercher à faire en sorte que sa société ne soit pas une société raciste. C'est pas le problème de celui qui subit la chose. Alors j'avais trouvé l'expression, je ne peux pas être à la fois la maladie et le remède. Je subis l'affaire et c'est à moi en plus de me battre pour l'enlever. Quand est-ce que je vais avoir du temps pour moi? Quand est-ce que je vais avoir une vie quotidienne exempte de ça? Et chaque fois que j'essaie de le faire, de faire ma vie ou d'écrire quelque chose qui ne parle pas forcément de cela, on me dit « Ah bon, vous oubliez vos frères ». Mais mes frères, c'est tout le monde.
Amireux, puisque vous récusez le terme à juste titre, enfin les termes qui véhiculent encore plus de violence, comme ce que vous venez d'expliquer pour le mot racisme. J'ai lu dans un livre qui vient d'être réédité, « Cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit ?» qu'il y a des mots que vous inventiez, que votre fille inventait. Alors, on va rester sur ce très beau mot amireux.
Oui, c'est ma fille, elle était très jeune. C'était le jour de la Saint-Valentin et elle voulait qu'on soit très proches. Elle m'a dit, papa, on ne peut pas dire, nous ne sommes pas des amoureux et puis nous ne sommes pas simplement des amis. Et elle avait trouvé ce terme entre les deux. Nous sommes donc des amireux. Et j'avais trouvé que ça allait au-delà d'un mot d'enfant et qu'il y a dans amireux quelque chose que les gens dans le grand public peuvent se référer. On trouve pas de mots des fois pour dire nos sentiments. Et les mots se présentent souvent comme une sorte de choix entre deux mots. Il faut choisir. Et bien là, cette petite fille a proposé un troisième. Une situation entre les deux, parce que l'amitié, nous savons très bien sa puissance, et qu'elle n'est pas seulement de l'amitié, il y a quelque chose d'exclusif dans l'amitié, des fois plus fort même que dans l'amour tel que nous le pensons. Les déchirures d'amitié, ce sont des choses terribles.
Et puis vous êtes aussi poète, ça sera ma dernière question. Vous publiez un texte inédit intitulé « Dans la splendeur de la nuit » qui est absolument magnifique, remarquable, à la fois ésotérique, poétique, philosophique, en tout cas universel. Et ce livre, il commence, il est manuscrit. Et c'est dans la collection « Point Poésie » dirigée par Alain Bancou. Et voici la première phrase, et je vous l'adresse, Dany Laferrière. « Pour toi qui marches dans la nuit sans savoir où tu vas ».
Oui, la nuit, c'est extraordinaire. Je trouve que c'est une chose. D'ailleurs, c'est l'une des grandes tristesses de ma vie. Et ma sœur n'a pas connu la nuit. Et parce que quand les filles ne connaissent pas la nuit, elles peuvent pas sortir seules en Haïti, tout au moins. Et elles connaissent pas ce moment où les gens baissent les armes et où la vie prend une couleur complètement différente, où la vie est au repos un peu, et en même temps où les arts s'organisent et accumulent des récits, des images, un peu comme ça, dans la pénombre. Et c'est terrible. Et moi, j'aime faire ça. C'est-à-dire, quand j'arrive dans une nouvelle ville, je sors la nuit et je marche jusqu'à ce que je me perde. Je marche tout simplement pour marcher dans la nuit, dans une nouvelle ville. Et espérer me perdre. C'est simplement, Borges dit, pour ne pas se perdre, il faut tourner tout le temps à droite. Et c'est ce qui est drôle, parce que c'est un conseil d'enfant. Si vous tournez tout le temps à droite, c'est bien sûr, vous allez revenir au point de départ. Vous avez fait un rond. Mais Borges aussi ajoute que le seul labyrinthe qu'il connaît, c'est celui de la ligne droite. Et parce que si vous allez dans la ligne droite, dans une direction, c'est sûr que vous n'allez jamais revenir au point de départ. Vous êtes perdu.
Merci infiniment, Dany Laferrière. Deux textes inédits, donc, dans la splendeur de la nuit, dans la collection De Poche, Point, Seuil, et puis aux éditions Grasset, L'enfant qui regarde. Merci infiniment.
Merci, Laura Adler.
Les rues comme mes poches sont vides. Les avenues si calmes sont l'air bolide. L'air est plus clair, paraît plus limpide. Personne ne joue, le temps est humide. Rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur, où sont les commerces, les glucides et ma monnaie, même timide. J'entends que la vie se vit sous vide. La mienne comme mes poches restent vides. Rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur, rien ne vaut la vie, elle est splendide. De sauver grâce à vous qui sortez courageux, solide. faire un geste, un nom rapide. Mais mes poches, comme les rues, restent vides. Rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur, rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur.
Et c'est avec Sans sommeil de Gaëtan Roussel et Alain Souchon que nous allons nous quitter ce soir. Merci encore Dany Laferrière, triple actualité pour vous, L'enfant qui regarde aux éditions Grasset, réédition augmentée de Dans la splendeur de la nuit aux éditions du Seuil, et cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit aux éditions Zulma. Merci à Mathieu Bérénic qui est à la régie technique ce soir, merci à Jean-Baptiste Dibert pour ses conseils musicaux, merci à Céline Villegas, Alexandra Brouillet, Élodie Royer et Marie Clément, et bien sûr à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Après le prochain journal d'information, vous avez bien sûr rendez-vous avec Mishka Sayas pour la suite de son Very Good Trip.